Que veulent ces marginaux?
Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde.
Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.
Le boycott?
Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus.
C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir.
Ouais, ouais.
Ça commence par moi, l'émission.
Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur Rage.fr, Spotify et iTunes. Aujourd'hui, on vous fait une émission bonus. Vous savez, comme sur le CD de Nevermind, de Nirvana, il y a la dernière chanson qui a quelques minutes de blanc et puis là, tout d'un coup, sort une hidden track qui sort vraiment de nulle part. Et bien là, c'est pareil, c'est une émission numéro 31. Je vous avais déjà dit au revoir à la fin de cette deuxième saison, à la fin de l'émission 30. Et tout d'un coup, on a eu une discussion avec Romain et Jeff, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on vous fasse cette émission parce que ce qu'on va vous dire, c'est trop important pour qu'on le laisse de côté. C'est une émission qui va prendre de la hauteur pour aborder un enjeu primordial, en fait même deux enjeux primordiaux du coup, le bonheur de la démarche écologique et la question des communs. Mais avant d'accueillir nos invités, moi je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
Et la bonne nouvelle de la semaine nous vient du cabinet de conseil Carbon 4 qui sort un rapport intitulé « Pouvoir et responsabilité des individus » des entreprises et de l'État face à l'urgence climatique. Faire sa part, point d'interrogation, et qui chiffre pour la première fois la capacité de chacun à contribuer au respect des accords de Paris, qui visent les 2 tonnes de CO2 par habitant en 2050. Bah, figurez-vous que les individus, en cumulant bonnes pratiques et investissements écologiques, peuvent contribuer jusqu'à 45% de cet effort. On dit toujours que les éco-gestes et l'action individuelle est inutile, et finalement, on se rend compte que c'est une part loin d'être négligeable, mais insuffisante si elle n'est pas accompagnée du pouvoir et de l'action des entreprises et de l'État, et qui montre qu'on a vraiment tous un rôle à jouer dans la transformation en profondeur de notre société. Et j'accueille tout de suite Romain Aonfort et Jean-François Rochat-Parot des Écolos Humanistes. Salut les gars.
Salut.
Salut.
Alors là, c'est une émission qu'on fout vraiment tous les codes derrière nous et de côté sous la table, parce que d'habitude, j'ai qu'un invité. Là, vous êtes deux. Vous êtes deux et vous êtes deux écolos humanistes avec des S du coup. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire écolo humaniste?
Écolo humaniste, c'est le blog qu'on a lancé depuis 2014. Et l'idée, c'est de reprendre les 3 piliers du développement durable, qui, dans la définition du développement durable, sont au même niveau. Et pour nous, donc ce qu'on appelle l'écologie humaniste, on reprend ces 3 piliers, mais on les hiérarchise en disant l'environnement, c'est une nécessité. On a une seule planète et il faut y faire attention. L'humain, ça doit être l'objectif. Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Et l'économie, ça doit redevenir un moyen au service de tout ça. Donc voilà la naissance de l'écologie humaniste. C'est une réappropriation et donc des écolos humanistes.
Et des écolos humanistes qui sont nés sur Internet avec tout un tas d'infographies, une trentaine maintenant ?
Plus de 50.
Plus de 50, oula, j'ai loupé un épisode.
Ça fait un petit peu plus de 5 ans qu'on fait ça.
Ouais.
Nous, on se connaît depuis 10-15 ans. Et du coup, bah voilà, on a lancé ça en 2014 et avec la volonté d'en faire une par mois, donc de traiter un sujet qui correspond à notre grille de lecture, donc qui met en avant l'humain ou l'environnement. Et donc, voilà, on avait vraiment cette ambition de cette récurrence pour justement toujours garder... le fil et pas se dire on fait la prochaine dans on sait pas quand.
Donc oui, forcément le côté du rythme que tu évoques là tout de suite Romain, mais un rythme pour accompagner l'individu dans une compréhension plus fine, plus nuancée, plus complexe aussi de tous ces enjeux qui ne sont pas que limités à l'écologie comme tu le disais Jeff.
Ouais, bah en fait l'idée c'était qu'on avait deux problèmes avec le développement durable. Le problème théorique donc qu'on a résolu en inventant la définition d'écologie humaniste et le problème pratique. Où nous, au début des années 2010, il y avait beaucoup de débats sur les agendas 21 ou sur des choses comme ça, mais comment, dans notre quotidien, à notre échelle, on pouvait faire. On n'avait pas de réponse. Et donc, c'est à partir de là qu'on a dit, il y a plein d'initiatives qui existent déjà. On ne va pas réinventer la roue. Le problème principal qu'elles ont, c'est qu'elles ne sont pas assez connues. Et on se met un peu au service de ces initiatives. Et c'est ce qu'on continue de faire. Et donc, l'idée, c'était de dire, on va les aider à sortir la tête du guidon. Bon, souvent, dans l'initiative, on a notre propre jargon ou des choses comme ça. Et le grand public ne peut ne pas comprendre l'initiative ni l'intérêt de cette initiative. Et donc, nous, on arrive avec un regard extérieur en disant le but, c'est de comprendre, simplifier pour mieux transmettre ces initiatives.
Et vous qui avez ce recul de plusieurs années hein, sur justement toute cette mouvance d'éco-citoyenneté qu'on voit presque même ces derniers mois en plein boom, comment vous la voyez, cette mouvance évoluer? Qu'est-ce que vous notez entre les tout débuts des écolo-humanistes et aujourd'hui le contexte dans lequel nous vivons?
Une question.
Vous avez cru qu'on allait parler comme ça de petites questions sympas et tout le monde allait bien se porter? Non, on rentre dans le vif du sujet et on essaie d'avoir une analyse un peu fine. Vous avez sorti 50 infographies. La première infographie, par exemple, est-ce que vous vous souvenez de laquelle c'était?
C'était sur l'écologie humaniste, où on expliquait un peu le débat. Et après...
Une des premières, c'est peut-être les monnaies locales.
Ouais.
Ça doit être la 4 ou 5e. Et typiquement, les monnaies locales, la première fois qu'on en entend parler, j'imagine que ça fait ça à plein de monde. C'est si j'achète déjà local, à quoi ça sert d'utiliser une monnaie locale? Parce que je vais aller dans le même magasin, sauf qu'au lieu de payer en euros, je vais payer avec autre chose. Et du coup, nous, de nous intéresser à ça, d'essayer de le simplifier, de le transmettre, comprendre, simplifier, transmettre, c'est un peu notre leitmotiv. Et du coup, voilà, on comprend que cet argent-là, il va plus circuler en local, et que par exemple, l'argent qui est échangé, donc les euros qu'on a échangés, ils vont être stockés, et donc aussi financer des projets en local, et donc on comprend la complexité et l'intérêt multiple de la monnaie locale. Et donc ça, c'était une des premières, jusqu'à la dernière, c'est la mode durable. Donc voilà, l'idée de dire, un t-shirt, ça cache des choses, et donc suivant lequel on va acheter, on va pas promouvoir le même modèle de société. Et après, du coup, sur la longueur, je sais pas, je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives, que peut-être elles se complètent aussi de plus en plus, et que nous, notre idée, c'est aussi de montrer des visions un peu différentes, et de dire, quelqu'un qui s'intéresse aux monnaies locales, là on lui montre que la mode durable ça existe, et quelqu'un qui s'intéresse à la mode durable, du coup en voyant notre site, il va connaître la monnaie locale.
Donc j'ai l'impression qu'au début, la question c'était vraiment d'aller expliquer l'information, d'aller la chercher, parce qu'en fait c'était pas forcément visible, et qu'aujourd'hui l'information elle est peut-être plus visible, les alternatives sont plus visibles, mais il faut maintenant les interconnecter.
Ouais, il y a un peu cet effet réseau, et une des autres infographies qu'on a fait en première, c'était sur le revenu universel. Et pour rebondir sur la vision qu'on en a, je pense que de plus en plus, les éco-gestes sont mieux intégrés. Et on arrive aux 45% que tu parlais en début d'émission, de dire ça peut faire ça. Mais le vrai enjeu maintenant, c'est comment je passe d'une démarche individuelle à quelque chose de collectif. Et nous, ce qu'on croit beaucoup, en fait, le problème initial, c'était de dire les initiatives, elles ne sont pas assez connues. Après, en s'intéressant à ces initiatives, on est arrivé à un autre problème. Souvent, on manque de temps ou d'argent pour s'investir dans ces initiatives. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est intéressé personnellement au revenu universel et qu'on a travaillé avec le mouvement français pour un revenu de base pour mettre en place une formation éducation populaire pour comprendre les enjeux de ce débat, pour comprendre que le revenu universel, c'est un outil. Il y a certains paramétrages qui peuvent en faire un mauvais outil, entre guillemets, si on se met dans la vue de l'écologie. Mais ça peut aussi être un vrai, véritable effet levier. Et nous, on est beaucoup là-dedans maintenant, en disant il y a toutes ces initiatives, toute cette matière-là, mais comment on passe du colibri à un effet de groupe?
De coopération, du coup.
Oui, tout à fait. De coopération, mais même, on parle beaucoup de trois valeurs importantes. La sobriété, l'autonomie et la coopération. Et pour nous, il y a quand même l'autonomie entre ces deux, valeurs, avant de passer à la coopération. En fait, la sobriété, ça va nous aider à faire le bilan sur qu'est-ce qui est un besoin vraiment important et qu'est-ce qui relève de l'envie, et de se recentrer sur l'essentiel. Et tout ça, ça va nous donner, développer un peu notre autonomie en disant, on va dépenser peut-être moins d'argent, on va avoir plus de temps. Et cette autonomie-là, c'est là que le revenu universel est intéressant, parce que ça pourrait faire un effet de levier en donnant du temps, de l'argent, et surtout en n'ayant plus la charge mentale du quotidien. Et c'est que à partir du moment où je suis pleinement autonome que je peux m'inscrire dans un projet coopératif et où c'est de la vraie coopération. Parce que la coopération, même si on voit le côté collectif, c'est une somme d'individus qui parlent de leur propre voix et qu'il en ressort quelque chose au milieu de plus grand que les propres voix additionnées. Et donc, c'est pour ça que pour nous, le pas autonomie est hyper important.
Et donc, pour alimenter ce pas autonomie, vous avez fait toutes ces séries d'infographies qui, c'est vrai, tendent beaucoup vers la décroissance, qui tendent aussi vers le bonheur. En général, on avait quand même cette impression, peut-être que c'était même complètement novateur à l'époque où vous avez lancé les écolo-humanistes, que parler d'écologie, c'était parler d'une certaine manière de punition, de frustration et de porter un peu un fardeau. Parce qu'il fallait le faire pour quelque chose de plus grand que nous. Tout de suite, vous êtes rendu compte qu'en fait, cette démarche, elle pouvait aussi aller vers une quête de sens, une quête de bonheur plus profonde.
Ouais, bah, je crois que globalement, les infographies aussi, elles reflètent un peu notre parcours, hein, tout bêtement. La quatrième infographie, bah, c'est quelque chose qu'on a mis en place avant la 35e. Parce que aussi, nous, on a découvert des choses petit à petit. Et du coup, oui, notre ambition, ça a toujours été de se dire, bah, il faut que ce soit positif, parce que bah, nous, on le fait pour le plaisir aussi. Mmh. Et donc, si nous, on trouve que c'est cool, bah, potentiellement, ça va intéresser d'autres gens. C'est un peu la même démarche que le film Demain, en fait. C'est de montrer des solutions, et pas juste de dire aux gens, bah, vous dépensez trop de carbone, vous polluez la planète et tout, mais plutôt de dire, bah, en fait, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et le côté petit pas, de se dire, bah, essayez de mettre quelque chose en place, parce que si on vise la montagne tout de suite, bah, on se décourage trop vite. Mais plutôt les petites étapes, et une fois qu'il y a quelque chose qui est un peu inscrit dans votre quotidien, vous pouvez passer à autre chose. Et en fait, c'est presque, après ça devient presque naturel, parce que on essaye toujours d'avancer, on est toujours en mouvement dans la transition, dans sa transition personnelle. Et donc une fois que quelque chose est intégré, en fait, on se dit même plus qu'on le fait, quoi. Et même des fois, on peut en parler à d'autres gens et se dire, bah, moi, ça fait 10 ans que je le fais. Je pensais même pas que c'était de la transition. Ouais, bien sûr. Donc il y a toute cette démarche-là un peu positive qu'on essaye. Parce que aussi, nous, dans notre réflexion de l'écologie humaniste, l'idée, c'était que l'humain, vraiment le but, c'est d'être heureux. Et finalement, c'est cette quête-là qui est importante. Donc bah, forcément, ça se retraduit un peu dans tous les sujets dont on parle.
Donc cette quête, vous l'avez fait, en fait finalement c'est un témoignage hein, que vous vous faites tout simplement sur les écolo-humanistes qui existaient longtemps à travers votre site internet, lesécolo-humanistes.fr, et donc du coup il y a bien des S à mettre. Hein.
Pas écolo,
on est d'accord, et à humaniste, oui, .fr, mais tout ça vous avez voulu le concrétiser dans un objet partageable, transmissible, qui est un livre et qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça il me semble.
Exactement, il est sorti à peu près mi-avril.
Dont le titre est.
Et donc le titre justement, c'est Vivre avec moins pour vivre heureux. Donc on retrouve bien cette quête du bonheur là. Et donc avec cette vision un peu minimaliste, en fait c'est l'éditeur qui est venu nous voir, Rustica, parce qu'il a vu notre travail. Et nous on n'avait pas forcément cette vision là minimalisme dans notre travail des infographies. C'était un peu les sujets, ils venaient les uns après les autres en fonction de l'actualité, des gens qu'on rencontrait, des sujets qu'on avait envie de traiter. Donc on s'est rendu compte finalement qu'il y avait beaucoup d'infographies qui rentraient dans ce cadre-là et que bah sûrement que le minimalisme, c'est une voie vers l'écologie.
Bah oui, on se désencombre, on laisse de la place pour autre chose, on laisse de la place pour apprendre, on laisse de la place pour rencontrer, pour peut-être de la créativité aussi. Donc c'est les infographies typiquement qu'on retrouve sur le site internet qui sont entrecoupées d'interviews, de porteurs de projets, d'ONG, d'associations qui sont inspirantes, hein, c'est ça, dans la démarche alignée avec vos valeurs.
Voilà, avec peut-être une nouvelle grille, pas une grille de lecture, mais en tout cas, on a fait des chapitres par thème de la vie courante.
Ouais.
Donc s'habiller, se nourrir, se loger, ce qui est dans le site, elles sont vraiment chronologiques, donc d'une à l'autre, il n'y a pas forcément de lien. Donc là, c'était vraiment cette volonté-là, et puis ben, on en a créé des nouvelles qui ne sont pas encore sur le site, mais qu'on va publier un peu petit à petit. Et après, ben, ouais, on les a agrémentées un petit peu différemment, avec ben, les petits gestes qu'on peut faire concrètement, ben, les interviews... Là,
on dit souvent qu'il est pratique, graphique et ludique. En fait, on a voulu l'écrire comme on aurait souhaité le lire.
Ouais.
C'est un peu ce qu'on fait dans tout notre travail. Et on a, pour chaque thématique où il y a une infographie, il y a trois petits pas. Enfin, le premier, c'est un petit pas. Après, il y a un grand pas et un changement de vie. Et l'idée, c'est que chacun puisse cocher, entre guillemets, où il en est sur les différentes thématiques qu'on balaye. Et à la fois, à chaque début de chapitre, on commence par un jeu. Pour dire, bah, plutôt que d'évoquer la thématique du minimalisme en famille le dimanche midi, où ça peut être un peu théorique et pas très marrant et on peut vite se faire rembarrer, on a proposé de faire le Minds Game, qui est un jeu qui invite le premier jour du mois à enlever quelque chose de son appartement, le deuxième jour deux objets, etc. et qui finalement, à la fin du mois, on parle de minimalisme, mais on est rentré dans la démarche sans s'en apercevoir et plutôt en se lançant un défi.
En l'expérimentant, hein, c'est ça.
Ouais, tout à fait.
Vivre moins.
Vivre avec moins.
Vivre avec moins.
Pour vivre heureux, c'est moins extrême que c'est, vivre moins.
Vivre, vivre avec moins pour vivre heureux, c'est aux éditions Rustica. Et ça tombe bien, ça fait la parfaite transition pour la chanson qui coupe l'émission en deux. Hein. Vous avez l'habitude, cher auditeur, de cette petite pause musicale qui vient colorer un peu l'interview qu'on est en train d'avoir. Et vous, vous êtes venu avec une chanson qui est complètement dans le thème, puisque c'est, vas-y, je te laisse le dire, Jeff.
Il en faut peu pour être heureux.
Allez, c'est parti.
Du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Mais oui.
Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris ? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Pour être heureux ?
Pour être heureux.
De retour dans Ça commence par moi l'émission, nous sommes toujours avec Romain et Jeff, des écolo-humanistes. On le disait pendant la pause, en fait, il suffisait d'écouter les Disney, hein, tout est dans les paroles.
Ouais, bah, l'idée enfin, de cette chanson, c'est un peu le côté sobriété. Et c'est ça qui, pour nous, rend heureux, c'est de passer d'une vie qui est plus subie, qu'on estime subie, notamment avec tout ce qui est emploi, consommation dans la société actuelle, au fait de réinterroger ses besoins sur tout ce qui compose notre vie. Et ça va faire qu'on va plus choisir sa vie. Et souvent, dès qu'on choisit sa vie, on est bien plus heureux.
Mais justement, on choisit sa vie, pas évident, parce que là, actuellement, on est quand même avec deux mondes qui cohabitent. On a l'ancien monde qui, d'une certaine manière, est encore lancé et auquel la majorité des personnes continuent à adhérer, même si on sent qu'il y a quelque chose qui est louche et qui est en train, très clairement, de dérégler énormément de choses. Et le monde de demain, il émerge. Et en plus, il est polymorphe. On parle de permaculture des solutions. À quoi ressemble ce monde de demain? Vous avez, en plus du bonheur, un axe qui vous est cher, celui des communs, et qui pourrait incarner à votre sens ce monde de demain.
Les communs, c'est un peu une troisième voie entre le public et le privé. Où en fait, l'idée du commun, si on reprend la définition de qu'est-ce qu'un commun, c'est une ressource, une communauté et une gouvernance. Donc ces trois éléments, on peut avoir un commun. Donc typiquement, Barrage, qui est une radio associative, est un commun. Il va y avoir la ressource qui est le côté radio, la communauté qui est tous les gens autour qui sont dans l'association, et la gouvernance, les règles qui sont mises un peu en commun. Et ce côté-là fait que ça va bousculer les deux sphères, à la fois la sphère publique et à la fois la sphère privée, où dans ces deux sphères-là, on a souvent tendance à être comme un consommateur. En fait, on va consommer en achetant du côté privé, ou on va consommer en bénéficiant d'un service du côté public. Et les communs, ce que ça permet, c'est un peu cette coproduction et cette co-gouvernance qui est hyper important pour avoir la main dessus et faire des choses plus cohérentes, parce que dès qu'on coproduit quelque chose, il y a plus de chances qu'on y mette nos valeurs à l'intérieur.
Et ça, Romain, c'est quelque chose où vous aviez tout de suite cette idée de creuser ce sujet des communs au début des écolo-humanistes, ou ça vous est venu aussi pareil en expérimentant, en creusant?
Ouais, c'est un peu comme tout le reste. En fait, tout est venu un peu au fur et à mesure. Nous, au début, on ne l'avait pas forcément formalisé, en fait. C'était quand même sous-jacent. Ouais, parce qu'on s'est dit, si on fait des infographies, c'est pour que ça soit notamment diffusable sur les réseaux sociaux assez facilement, parce qu'on sait que l'image, ça a un fort impact. Et puis pour que les initiatives en question, elles puissent s'en resservir. Donc il y en a qui ont fait des kakémonos, des flyers, enfin voilà, qui s'en sont servis vraiment comme interface pour convaincre des nouvelles personnes de rejoindre leurs initiatives, ou mieux expliquer au grand public à quoi ça correspondait. Mais c'était pas forcément tamponné et commun, quoi. C'était, en fait, on vous le met à disposition, servez-vous, quoi. Et petit à petit, on a connu les communs. On s'est renseigné, on a creusé un peu la question, et du coup maintenant, toutes nos infographies sont en CC BY-SA, donc les Creative Commons. Et donc le BY, ça veut dire que les gens qui les réutilisent doivent nous citer, doivent citer l'auteur. Ça, c'est la base même du copyright ou de toutes les autres. Un auteur, entre guillemets, doit être cité. Et le SA, ça veut dire que les gens qui... Ils ont le droit de le modifier, de le vendre, voilà, ils ont quasiment tous les droits. Le seul, c'est que s'ils le modifient, ils sont obligés de garder la même licence. Donc, entre guillemets, nous, on a créé un commun, on l'a mis au milieu de la table. Et si quelqu'un veut changer la recette, par contre, ça doit toujours rester au milieu de la table. Ils ne peuvent pas se le réapproprier.
Est-ce qu'on a d'autres communs comme ça, des exemples qui peuvent parler aux gens tout de suite en leur disant « Ah mais oui, mais attends, ça existe depuis tellement de temps et en fait, c'est un commun.
» Pour moi, il y a déjà deux styles de communs différents. Il y a les communs qui sont rivaux, on dit, qui sont les communs naturels. Entre guillemets, si on a un bassin, on vit dans une communauté, il y a un bassin et il y a des poissons, le poisson, c'est ou toi ou moi qui le mangeons. Et c'est pour ça qu'on parle de communs rivaux. Mmh. Et après, il y a les communs de la connaissance, où si on met une infographie, nos infographies au niveau de la table, c'est non rival. Si toi, tu vas l'utiliser, c'est pas pour ça que moi, je l'ai plus. Donc, il y a déjà cette distinction-là. Et après, tout ce qui est associatif, notamment, rentre dans le milieu des communs. Et après, Wikipédia, par exemple, est un grand commun de la connaissance.
Ouais.
Où la ressource, ça va être tous les articles qui sont en ligne. La communauté, pour le coup, là, c'est une communauté mondiale. Et les règles de gouvernance fait qu'on peut modifier et que ça se fait un peu une auto-gouvernance, entre guillemets, avec les modifications successives.
On assiste à un gros revirement quand même de la question de la propriété qui était à l'époque et encore maintenant majoritairement, on va se mentir. Il faut que chacun possède sa voiture. Sa voiture, connement, elle reste 95% du temps à la place de parking et elle ne sert à personne. De plus en plus, on va vers l'usage parce que les voitures, on peut se les prêter, on peut se les partager. Il y a plein d'autres systèmes, il n'y a pas que les voitures. Est-ce que les communs, finalement, c'est dans cette tradition-là?
Oui, on revient là-dedans et c'est marrant parce que des fois, quand on dit aux gens de faire son compost, les gens nous disent, en fait, moi, mon grand-père, il a toujours fait son compost. C'est presque normal. Finalement, c'est pendant peu de temps qu'on ne l'a pas fait. Et les communs, c'est un peu pareil. Au Moyen-Âge, par exemple, la plupart du temps, les chambres, ils pouvaient appartenir au seigneur ou quoi, mais c'était de l'usage. Les paysans, ils cultivaient où ils avaient leurs troupeaux. Ils n'étaient pas propriétaires des terres, mais ils en avaient accès. Et en fait, aujourd'hui, on revient un peu à ce truc-là, où la propriété privée, en gros, ça a duré 200 ans. Enfin, ça existe toujours, mais il y a eu ce truc-là. Et là, on revient, du coup, plus à l'usage. Donc, ça peut être les voitures, mais les jardins partagés. Il y a plein de choses qui font. Tout à l'heure, à midi, on discutait un petit peu. On se disait, en fait, Blablacar, c'est la version covoiturage privé. Et il y a Mobicop, qui est la version covoiturage commun. Donc, avec une coopérative où les utilisateurs peuvent décider quelque part de comment ça se passe chez Mobicop, quoi.
Est-ce que justement cette question de la propriété, ça n'a pas montré que le fait de posséder quelque chose, ça nous poussait à la surexploiter et à en abuser, à en tirer jusqu'à la dernière goutte, alors que finalement le côté des communs, ça nous donne aussi, ça nous permet de faire un pas de côté et puis peut-être de plus se soucier du bien-être des gens. Est-ce qu'il y a cette notion un peu qui est derrière, que vous avez expérimenté vous ?
Ouais, et je dirais pas que c'est la propriété qui est remise en cause, c'est plus de la réinventer.
D'accord.
Ou ce qui est le problème dans la dans ce que tu dis, c'est le fait que ça soit une propriété individuelle, tandis que dans les communs, c'est une propriété partagée. Et c'est là où il faut bien faire la différence entre ce qui relève du commun et ce qui relève de l'économie collaborative, où les deux peuvent se relier. Mais par exemple, sur l'exemple de BlaBlaCar, les commissions, je vais avoir aucune vue dessus. Et ça a beau être collaboratif, d'un point de vue utilisateur, j'ai intérêt à ce qu'il n'y ait qu'une seule plateforme. Donc il y a un peu un monopole qui se crée, comme dans les livreurs à vélo ou des choses comme ça. Ça rebascule dans le commun et ça vient devenir quelque chose de plus durable dès qu'on va mettre en place une propriété commune et notamment des règles de gouvernance communes qu'on peut modifier et amender au fur et à mesure.
Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à partir du moment où ce sont des communs où on est tous acteurs, là on en prend beaucoup plus soin. L'exemple de BlaBlaCar marche, mais en fait l'exemple moi qui me venait tout de suite c'était les trottinettes qui sont partagées, mais qui appartiennent à une entreprise privée. Et donc du coup, en fait, nous restons dans notre rôle de consommateur. Et qu'est-ce qui se passe? Une trottinette, au mieux, a une durée de vie de 28 jours, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on s'en rend compte, on n'en prend pas soin parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a quelque chose qui nous y lie particulièrement d'autre que les quelques euros qu'on va dépenser à chaque fois qu'on s'en sert, en fait.
Ouais, c'est un service, entre guillemets, qui nous a été imposé.
Ouais,
alors après, on peut en avoir besoin. Enfin, c'est cool d'être mobile, hein, mais...
Ouais.
On l'a pas co-construit, on n'a pas d'intérêt spécifique à l'utiliser ou à ne pas l'utiliser. Peut-être les transports en commun sont plus communs, même si on n'a pas forcément accès à la gouvernance non plus, mais c'est plus, ouais, c'est le côté peut-être public aussi qui est un peu différent.
Et c'est quoi les prochaines étapes des communs? Alors comment on leur fait prendre une place qui va justement dans le sens de la société de demain, du partage, du respect des ressources?
Ben, nous, on voit beaucoup en disant on est beaucoup d'acteurs de la transition. Donc on va dire qu'on a le même pourquoi, on a le même but en fait d'aller vers une société plus écologique et plus humaine. On a beaucoup de commands différents, chacun a une manière de faire. Donc toi tu as testé une éco-action par jour, nous on fait une infographie par mois, donc c'est des manières différentes. Mais ce qui nous semble important pour que ça fasse effet de levier, c'est que toute la matière qui sort, donc les quoi en fait, les choses concrètes qui sortent, soit du commun ou deviennent du commun et soient libérées entre guillemets, pour qu'on puisse rebondir les uns les autres, que chacun puisse s'approprier et que ça fasse effet de levier de cette manière-là.
Des communs qui, en plus, si, comme vous le disiez avec l'exemple de votre CC by SA, qui, si ils sont mis en commun, peuvent créer de la richesse non pas plus pour une seule personne, mais pour plusieurs personnes. C'est ça tout l'avantage, en fait.
Ouais, et puis moi, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Entre guillemets, la propriété privée, ça pousse à surexploiter, mais ça peut aussi sous-exploiter.
Ouais.
Nous, on a fait un kit de prêt entre voisins, et donc une perceuse. Ça dure 12 minutes. La durée de vie.
C'est utilisé
12 minutes dans sa vie. Et du coup, finalement, bah, j'ai acheté ma perceuse, j'ai fait mes deux trous dans mon mur, après j'en ai plus besoin, je la mets dans un placard, et puis voilà, je l'ai utilisé 12 minutes, terminé. Alors que si on la prête à ses voisins, on augmente la durée de vie finalement pour tout le monde.
Et donc la juste utilisation.
On exploite mieux les ressources parce que bah, ça demandait d'extraire des minéraux, de transformer des choses, du transport, tout ça. Mais pour 12 minutes, c'est quand même dommage. Alors que si on l'utilise tous, bah, on peut arriver à des heures.
Ouais.
Et potentiellement, on va peut-être la réparer parce que du coup, on est tous ensemble autour de la table. Il y en a peut-être un qui sait faire deux soudures le jour où il y a besoin de la réparer. Et donc, on va plus, en tout cas mieux exploiter cette ressource qu'on a mis au milieu de la table, quoi.
Et donc, moi, j'ai deux dernières questions pour terminer cette émission. Pour la personne qui se dit, mais attends, tiens, cette histoire de commun, c'est pas naturel pour moi. J'avais l'habitude d'avoir ma tondeuse, ma perceuse, d'avoir ma voiture et d'être vraiment dans ce petit vase clos. Quel serait le premier conseil, la première zone d'expérimentation pour que ces personnes puissent se mettre au commun? Et ma deuxième question, comme ça, vous l'avez ensuite. Pour les personnes qui, elles, en fait, faisaient de manière assez naturelle, pour aller se former à cette question des communs et pour aller pousser encore plus loin ces sujets, quelle est la plateforme, le livre, la vidéo que vous recommandez pour avancer?
Pour répondre à la première question, allez, je dirais que le milieu associatif, naturellement, reste un commun. Après, il faut faire attention dès que ça devient trop gros. Une association peut devenir trop gros et limite basculer dans quelque chose de public où on n'a pas le côté co-création et co-gouvernance parce que c'est trop loin, où on vote pour un président ou un bureau trop longtemps. Il y a toujours ce côté matière malléable dans un commun, en disant bah, si ça me plaît pas, j'ai la main pour agir dessus. Mais je dirais que le premier pas, voilà, Romain parlait... de bénévolat, tout ce qui est voilà, jardin partagé. Bah moi, je suis...
comestible.
ouais, je suis jeune papa, je suis dans une crèche associative, bah typiquement, voilà, c'est un commun qu'on a au milieu de la table et qui nous rend de grands services.
Ok. Et pour les gens qui se disent, bah en fait, moi je le faisais depuis hyper longtemps, mais j'ai envie de me structurer par rapport à ça, CC by SA, ça me disait rien, où est-ce qu'ils vont creuser?
Alors du coup, je connais pas l'adresse, mais il y a un site internet des Creative Commons. Okay. Donc bon, voilà, il faut chercher dans Ecosia, par exemple, okay, dont on entendait parler tout à l'heure. Et du coup, il y a de la ressource. Et c'est vraiment l'idée de dire, en fait, il faut co-signer ce qu'on a produit. Parce que bah, si on met pas de signature, en fait, ça peut appartenir au premier qui signe le truc.
Ouais.
Et si on signe pas en CC by SA, ou en tout cas pas en licence libre, bah, c'est pas réappropriable par les autres. Donc c'est ce qu'on disait, si on veut que la transition aille vite, bah, il faut partager le plus possible ce qu'on crée tous ensemble. Et donc bah, voilà, le signer de manière libre, ça permet à n'importe qui de pouvoir non seulement le réutiliser, mais peut-être même l'améliorer. Donc ça peut nous servir à nous-mêmes qui avons créé cette ressource-là, quoi.
Et le partage et la co-construction comme accélérateur de la société de demain. Merci Jeff, merci Romain. Je redonne le site internet des écolo-humanistes. Attention, tenez-vous bien, il n'y a pas de S à écolo, mais oui, il y a un S à humaniste, et c'est .fr. Et merci d'être venu.
Merci à toi.
Merci.
Et voilà, ça commence par moi, l'émission, c'est terminé. Moi, je suis ravi, comme d'habitude, d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Merci à Raph aux manettes. Malgré la nouvelle console, on a une émission aux petits oignons. Merci à Raj pour son soutien. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur Raj.fr, Spotify et iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux et je vous souhaite de très belles vacances. Salut !